Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
La conspiration.
Les dernières créations de l'année, bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus 92.1 FM, Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, comme chaque mercredi 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30, la petite demi-heure pour épingler l'actualité scénique à Bruxelles. Alors on ira aux poches, évidemment, les fêtes arrivent et il y a la 6e édition des contes urbains. Cette année, le thème est l'hérésie. On ira du côté du Théâtre National dans une petite salle pour aller faire un tour du côté de l'Amérique. Il y a un seul en scène de Florence Minder, Fusil au poing, et c'est Good Morning. On ira aussi du côté de Desproges au Richclair, Vivons heureux en attendant la mort. Et enfin, on a des invités au plateau, j'allais dire sur scène, Philippe Behet et Emmanuel Di Candido, qui organisent un festival de lecture de pièces iraniennes, des pièces contemporaines, hein, Philippe?
Oui, tout à fait, oui.
C'est un inédit parce qu'on ne connaît pas le théâtre iranien. Et alors, le théâtre iranien contemporain mis en lecture à Tour et Taxi, ça risque de le faire. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission avec un petit bonus, une lecture par Philippe Haidt, qui est metteur en scène, comédien, auteur. Alors là, je me retourne vers qui? Ben vers moi-même, pour vous parler des contes urbains que j'ai vus hier à la première au théâtre de Poche. C'est jusqu'au 29. Alors le principe est simple, il vient du Québec, hein, c'est une espèce de stand-up, c'est donner un auteur, un comédien, un metteur en scène, une pièce de 20-25 minutes. Et normalement, c'est fait pour mettre dans les fêtes de fin d'année, pour un peu faire un contrepoids à ces sentiments dégoulinants de communauté et de fusion. Au fil des années, moi, je trouve ça c'est un peu perdu, cette ambiance de fête. Et hier, vraiment, c'était pour moi un peu la déception. Alors le thème, c'est l'hérésie. On a quoi? On a René Bizac, on a Thomas Gunzik, Laurence Bibeau, Riton Liman pour les auteurs. Et chacun fait sa petite pièce. Donc l'idée est simple, un plateau très nu où les pièces s'enfilent une à une. Ça, il y a pas de, c'est la simplicité qui fonctionne. Alors la première pièce, c'est, je vous le donne en mille, Mimi 7. Alors là, on est à Disneyland. Il y a Ségouine Berrou qui se réplique sur un tube de Madness, hein, l'intro de Madness. On se demande ce que Madness vient foutre là-dedans. Et elle vient déguisée en Mimi. Et en fait, on est dans une espèce de Disneyland qui organise une grande méga fête. Et il y a Mimi qui passe une audition. Et en fait, au fil de l'histoire, ça se termine qu'elle va faire exploser le lieu et tout cette espèce de Disneyland. Ce qu'il y a, c'est que l'écriture est très compliquée de René Bizac, qui donne parfois une belle écriture dans certaines pièces. Ici, on subit un peu la chose, voilà, faire cette espèce de mimi, de figure de Disneyland ne prend pas. Moi, j'ai trouvé que Gwen Berrou avait un peu de mal avec son texte, parce qu'elle passe des deux voix, elle passe entre Mimi, qui passe l'audition, et celui qui l'auditionne, avec un ton un peu plus nerveux. Et ça prend difficilement. Enfin, il y a All Inclusive, et All Inclusive, rien que pour ça, ça vaut le détour, parce qu'il y a Cathy Grosjean qui a vraiment déchiré la scène hier. C'est Thomas Gunzik aussi, une belle écriture, et elle explique dans un discours assez froid. Moi, je me suis dit au début, c'est le côté très efficace, on est dans un groupe de parole, donc c'est un style très efficace pour une pièce de théâtre. Voilà, elle parle au public, hein. Et en fait, on se rend compte qu'elle porte un discours sur une femme qui, à la plage, a laissé ses enfants sont perdus, et elle porte un discours, et alors on s'en fout, il y a 50 millions d'enfants, s'il y en a un qui perd, qu'est-ce que ça peut foutre finalement, hein. Et donc il y a le scandale, hier il y a un homme apparemment qui a été scandalisé, qui s'est cassé, parce qu'il trouvait ça pas drôle du tout, alors, et elle déconstruit très très bien, enfin Thomas Gunzik déconstruit très très bien l'idée, bah oui, finalement, on est l'enfance ou la famille, c'est culturel, c'est sociétal,
si l'enfant
on en
roi,
perd
hein.
Un, si on en perd un, bah why not, quoi. Mm-hmm. Moi ça m'a touché, ce genre de truc. Et en plus, Catherine Grosjean, elle tient son texte de bout en bout. Elle a une force sur scène qui est très, très impressionnante. Troisième extrait, entr'acte évidemment. Troisième extrait, là on est dans les paillettes. Figurez-vous que c'est Laurence Guibaud qui fait Paris brûle-t-elle. Et en fait, Paris Hilton est morte au bois de la Cambre. Moi, c'était le pompon de l'artifice pour moi. La salle est hilare, je dois bien le dire. Et Ariane Rousseau qui en robe strass, parce qu'on est dans une cérémonie mortuaire où Paris Hilton est mort à deux pas de là. Ariane Rousseau s'en sort mais super bien pour un texte très à paillettes qui est très 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 pauvre. Laurence Guibaud se contente d'un sketch, on va dire, de l'écriture de sketch qui ne mène pas loin. Enfin, ça se termine par Riton Liebmann, et Riton Liebmann, mise en scène par Olivier Coyette, raconte son passé. Son père, c'est Marcel Liebmann, qui était prof à l'ULB, qui était un pro-palestinien, et il raconte un peu tout son parcours de pro-palestinien et d'enfant dans une famille progressiste juif, dans une communauté juive à Bruxelles, et c'est délicieux. En plus, Riton Liebmann ménage très bien la scène, il passe d'un endroit à l'autre, c'est très efficace.
On sent bien que les hérésies sortent du religieux, ici.
Oui, alors les hérésies, c'est vraiment par rapport à des idées, par rapport à ce qui est communément admis, c'est on va dire
aux
les
croyances
rebelles,
contemporaines.
Voilà, on va dire c'est... les rebelles. Donc la mère, elle prend le coup parce que ça reste toujours un peu scandaleux. Le pro-palestinien juif dire ça sur scène par un juif, et il y avait une communauté juive hier dans la salle, c'était quand même très fort parce que Riton Liebmann termine par ces mots. Donc il y a pas de doute là-dessus, pro-palestinien. Paris, ça c'est l'artifice total, mais avec une comédienne qui est extraordinaire, Ariane Rousseau. Et le début, difficile. Mais comme tu le disais, Nico, quand on fait les contes urbains, il y en a toujours un ou deux, on finit par les comparer. Hein. C'est un peu dégueu, mais on finit par comparer les pièces l'une à l'autre alors que ça n'a rien à voir.
Et c'est difficile de donner un ensemble aussi au spectacle. En fait, on sort avec une idée et des points forts comme ça qui sortent de tout ça.
S'ils avaient gardé l'idée de Noël ou rapproché beaucoup plus comme les premières années où il y avait juste le petit détail d'un petit sapin où à un moment donné, on faisait une référence à Noël qui nous rassemblait un peu tous là-dedans, ça se perd. Donc voilà, chacun prend ce qu'il veut, mais bonne ambiance. Apparemment, on doit être dans le divertissement de fin d'année. Bon, moi, ça, j'ai toujours un peu de mal à comprendre. Et donc voilà, on va vous dire que Paris Hilton, c'est divertissant, c'est de circonstance. Alors, les contes urbains, érotiques,
hérético-urbains,
c'est jusqu'au 29 décembre au Théâtre de Poche.
www.poche.be et des places à gagner dans nos agendas culturels.
Voilà, alors Sophie, maintenant c'est ton tour.
Vivons heureux en attendant la mort. Voilà, au Riche Clair, c'est un stand-up, ici aussi, interprété par Dominique Ranvaux. Et voilà, avec le metteur en scène Fabrice Gardin, ils ont sélectionné différents textes de Pierre Desproges. Voilà, donc des textes issus de ses spectacles, de son livre éponyme, de ses chroniques de la haine ordinaire, qu'ils ont agencé dans ce stand-up. Et voilà, donc des textes savoureux. Hein, on sait que Desproges jongle avec les mots, qu'il déploie la langue française sous toutes ses formes, comme je trouve que plus grand monde ne le fait aujourd'hui. Donc c'est quand même assez savoureux. Et puis bon, voilà, son humour est grinçant, féroce, cynique, tout ce qu'on veut. Il y a vraiment un mépris pour... à la fois un mépris, je pense, et une tendresse pour la société, pour la bêtise humaine aussi. Voilà, moi j'ai vraiment apprécié l'écriture de Desproges parce qu'il se permet finalement de cracher poliment sur la société avec élégance. Donc voilà, il y a une
ça
finesse.
Ça tient toujours la route.
Il y a une finesse qui tient toujours la route, même si le texte a vieilli, on sent quand même énormément de références franco-françaises, voire parisiennes, au milieu des années, enfin, aux années 80, au milieu médiatique français, Bouvard, Collarot et compagnie. Donc c'est peut-être des références qui ne font pas écho pour les plus jeunes, mais pour les personnes de plus de 25 ans, voilà, c'est.
Et Dominique, ça les touche.
Et alors Dominique Ranvaux, j'ai trouvé qu'il s'appropriait assez bien le texte, en fait. Hein. Il a ce flegme, mais peut-être un côté un peu plus hautain, un peu plus bourgeois, comme ça.
Il le fait tout le temps.
Ouais, mais voilà. Après, est-ce que
il a une tranche de bourgeois, c'est le délit de sale gueule. Hein,
mais voilà. Donc peut-être que sur ce plan-là, alors est-ce que c'est voulu ou pas, est-ce que c'est physique, on ne sait pas. Mais il se détache quand même un peu de.
Mais
de,
il a une gymnastique corporelle. Est-ce que là, il en eut ou pas, ou bien il reste très sobre.
Non, c'est très sobre. Hein. Il y a une mise en scène très sobre aussi, hein, des lumières intimistes. Et mais voilà, il porte bien le texte et c'est assez impressionnant parce que il fait des digressions. Il y a vraiment des élucubrations, des phrases à rallonge pleines d'incises. Et moi, j'ai trouvé que il fallait être un très bon comédien comédien pour maîtriser un texte pareil, parce que autant pour le fond que pour la forme, pour la longueur des phrases comme celle que je suis en train de faire, pour la qualité du vocabulaire, la richesse du vocabulaire, il faut vraiment
Des proches avaient une posture aussi, hein, on se souvient de lui debout très droit comme ça dans un milieu très sombre aussi, hein, c'est toujours les images qu'on a quand on
voit ça s'est reproduit tout à fait ici. Donc je pense que pour les personnes qui connaissaient des proches, il y avait beaucoup de quinquagénaires dans la salle, quinquagénaires. Je pense qu'ils vont redécouvrir le texte et ils se marraient. C'était vraiment un plaisir. Bon. Pour les autres, c'est une belle découverte.
Alors, évitez Paris, allez voir des proches.
Allez voir Vivre heureux en attendant la mort. C'est jusqu'au 22 décembre au Richclair. Donc les infos sur lesrichclair.be.
Ils auraient pu y aller jusqu'au 31, les fainéants. Oui. Alors, Good Morning au Théâtre National, jusqu'au 22, mais ça a commencé plus tôt.
Voilà, Good Morning, version sous-titrée bilingue de Florence Minder, comédienne d'Armel Roussel, de Pierre Mégos, seule en scène, dont elle avait présenté une forme courte au Festival Excess, et qui traite du processus de deuil, puisque Florence se présente sur scène suite à l'annonce de la perte de quelqu'un de proche. Elle va tomber en dépression et elle va nous expliquer comment elle va se reconstruire par rapport à cette fracture via un processus d'une psychologue en 7 étapes. Donc il y a le choc, le déni, la dépression, le test, le marchandage. Et c'est ainsi que se structure le spectacle. Donc elle est face à nous, une carabine à la main. Moi, elle était en legging avec un t-shirt, mais je sais qu'elle était en tenue de tennis une fois ou en robe
de petite fille. Voilà. Des grosses baskets et une robe.
Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle joue en anglais. C'est surtitré néerlandais et français derrière. Il y a un jeu sur le langage et sur les surtitres. Donc, c'est assez amusant parce que ça évoque l'Amérique profonde, les séries américaines, l'imaginaire de Florence Minder par rapport à cette Amérique.
Elle le dit, hein, ce qui est très intéressant, elle passe dans une autre langue qui lui permet de mieux s'exprimer.
Voilà, parce que voilà, le français, elle pense que c'est une langue, c'est sa langue maternelle, ça allait rendre les choses beaucoup plus intellectuelles. Et là, elle voulait que ce soit vraiment un spectacle comique, parce que je ne l'ai pas encore dit, c'est un spectacle comique où on rit beaucoup, on sourit, jaune parfois. Le seul défaut, c'est que voilà, cette forme de 25 minutes, elle a un peu gonflé pour en faire un spectacle qui fait 50 minutes, 60 minutes. Et que c'est vrai que sur la fin, on en parlait tout à l'heure, elle se perd un peu dans les digressions, elle fait intervenir son frère. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a une forte présence, un charisme. Elle est toute seule dans la grande salle Huysmans, sur un grand plateau nu. Et ça tient la route pendant les 50 minutes.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle démarre tellement bien. On parle d'accroche, hein, donc une femme carabine au poing avec de l'américain en bouche. Alors on sait qu'elle parle français, donc on est déjà mort de rire avec des surtitres. Et elle joue sur cette Amérique avec son fusil et elle explique vraiment la loose. Et donc tout le monde se reconnaît là-dedans, surtout pour l'instant. Donc voilà, dans cette espèce de trou dans lequel elle est rentrée, donc on la suit. Et puis à un moment donné, elle se barre dans un paquebot et on se retrouve dans une autre histoire, quasiment dans une autre pièce. Et c'est là que c'est difficile parce qu'elle perd son sujet.
Ben en tout cas, elle ne revient pas après. Elle aurait pu revenir et donc ça se termine. Je ne vais pas dire comment ça se termine, mais la fin est un petit peu très plate par rapport au début, justement.
À l'entrée en matière.
À l'entrée en matière.
Et ça vaut le coup de voir parce que c'est une bonne comédienne et la pièce est assez originale.
Voilà, et c'est un spectacle savoureux à voir pour les fêtes de fin d'année jusqu'au 22 décembre.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Waouh, Nico, quel accent. Ça ferait frémir Florence Minder.
Paris Hilton,
nous, on va essayer Untitled, festival de pièces d'auteurs iraniens ou de pièces iraniennes. J'ai à mes côtés Philippe Haid et Emmanuel de Candido qui organisent un peu ce festival. Bonjour Philippe, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors Philippe, toi on te connaît, metteur en scène, auteur, comédien, belge, qui a bossé longtemps en France. Et ici, tu reviens un peu dans ta terre.
Le fils prodigue.
Et tu avais envie, hein, il y a quelques années, tu me disais que ça t'avait manqué. Tu retrouvais un peu la Belgique.
Ouais, j'y suis toujours pas vraiment réinstallé, mais j'y viens de plus en plus souvent. Et ça me manque de plus en plus. C'est vraiment l'appel du nid, quoi.
Mm-hmm. Et ici, tu fais ton premier gros projet. Tu as fait d'autres projets, mais ici, tu me disais, c'est le premier gros projet de ta compagnie belge.
Oui, on a monté une compagnie avec Emmanuel de Candido, Stéphanie Manger et Adrien de Röder, et c'est le premier projet de la compagnie qui est en finalisation, donc ce festival de lecture iranienne, qui est attaché à une exposition magnifique de peintres iraniennes habitant en Iran, donc des jeunes femmes, et une exposition sur les œuvres picturales souvent censurées en Iran actuellement.
Et pourquoi justement l'Iran ?
C'est la rencontre en fait de la compagnie, de la structure avec la commissaire d'exposition de cette exposition, et en fait ça nous a donné envie de dire ok, il y a évidemment les œuvres picturales, mais il y a aussi le théâtre en Iran qu'on ne connaît pas. Les textes, la plupart ont été traduits spécialement pour nous, pour ces lectures, donc c'était un peu ça. Et c'est vrai que c'est Emmanuel Candido qui a chapeauté aussi un petit peu le lien entre l'Iran et la Belgique en fait.
Emmanuel, toi tu es comédien en Belgique, et alors comment tu te retrouves là-dedans?
Moi, je me retrouve là-dedans. J'ai en fait eu l'occasion à plusieurs reprises de partir en Iran, de voir un tas de pièces là-bas et donc de rencontrer des artistes, auteurs, metteurs en scène.
Attends, t'es parti en Iran, t'as vu un tas de pièces. Alors, c'est comment aller en Iran et voir un tas de pièces?
En fait, depuis longtemps, j'étais en contact avec Liliane Angeau, qui est chercheuse sur le théâtre iranien, et qui m'a proposé tout simplement de venir en Iran, de découvrir le festival international. Donc j'y suis allé à deux reprises, et la dernière fois, une troisième fois, j'y suis allé pour jouer. Et tout ça a donné l'occasion de rencontres avec des artistes, auteurs, metteurs en scène, comédiens.
Et justement, donc le choix des pièces, comment ça s'est fait? Parce que pour nous, c'est étrange, hein, on voit une compagnie chercher des pièces iraniennes. Comment se fait le choix et la traduction et tout ça?
Le choix, c'est aussi évidemment forcément Emmanuel qui l'a fait, surtout sur place, en rencontrant les artistes, en les voyant les pièces, en lisant les textes, etc. Et puis ensuite, à quatre au sein de la compagnie, on a lu les textes et on a fait un choix aussi en fonction des sujets d'actualité, des choses qui nous touchaient et des possibilités, quoi.
Et puis c'était aussi c'est un choix qui a été fait avec des artistes sur place. Notre envie, c'était de présenter 8 auteurs qui habitent en Iran, respirent l'air de leur société, écrivent sur leur société, et d'avoir des styles aussi différents entre théâtre absurde, théâtre dramatique, plus comique, enfin avoir une sorte de panel.
Emmanuel, toi qui as fait l'Iran, donc est-ce que tu vois qu'il y a d'abord une scène? Est-ce que c'est une scène contemporaine ou est-ce qu'il y a un théâtre, il y a un public? Comment ça se passe là-bas?
Tout à fait, il y a une scène tout à fait contemporaine, c'est qui est un mélange entre leur théâtre et leur théâtre plus traditionnel, mais c'est des mangeurs de spectacles et de littérature étrangère, et ils connaissent très bien les metteurs en scène, auteurs européens, et il y a un mélange qui donne une scène très contemporaine. Voilà, avec des textes très intéressants et des langages scéniques tout à fait originaux qu'on trouverait même pas ici, parce que avec la censure, avec les infrastructures qu'ils ont, avec leurs conditions de création, ils sont obligés de trouver des langages scéniques et des langages d'écriture capables un petit peu de louvoyer avec la censure ou de répondre aux conditions techniques, voire financières qui sont les leurs, et d'inventer, d'avoir de la créativité avec tout ça.
Est-ce que ce n'est pas un circuit contemporain underground, c'est-à-dire dans la capitale, pour quelques initiés?
Non, pas du tout. Au contraire, la population iranienne est une population jeune, la population téhéranaise est une population jeune, et les théâtres sont remplis d'un public électrique. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas tellement de lieux de sortie possibles, pas de boîte de nuit, pas de bar, enfin, de certains types. Donc le théâtre est vraiment un lieu où la jeunesse téhéranaise peut se retrouver et est avide de voir ce qui se passe sur le plateau et ce que ça signifie pour eux, quoi.
Et Philippe, toi, tu as eu envie de montrer ces textes, pas d'en monter une, parce que tu es metteur en scène?
Actuellement, si on avait monté juste un texte, on aurait montré un texte ou à voir ou à entendre. Là, l'occasion de pouvoir faire des lectures, en fait, c'était de pouvoir présenter au moins ces 8 textes. Et moi, en France, j'ai travaillé avec une compagnie qui ne faisait essentiellement que des lectures, en fait, qui était subventionnée en France pour proposer ces lectures, au Théâtre du Rond-Point, entre autres. Et j'ai fait beaucoup de lectures pupitres, qui étaient entre la lecture et la mise en espace. Je sais qu'ici, quand je fais ce genre de choses, ça fait un petit peu tiquer, parce que c'est un peu particulier. D'ailleurs, la façon dont j'ai monté, enfin, dont on a travaillé Chronique est un peu particulière, évidemment, parce que vraiment, on prend le texte à bras-le-corps, et il y a déjà une vision de mise en scène dans la lecture en elle-même, on en reparlera peut-être tout à l'heure.
Ça se fait, hein, ce sont des mises en lecture, hein, comme on dit. Donc, il ne faut pas s'attendre à une lecture, voilà, pupitre et tout simple. Il y a une mise en lecture, mais ce qu'il y a, c'est que les comédiens ont le texte en main.
Oui, et puis il y a même une réflexion aussi sur, par exemple, sur Chronique que je mets en lecture. Chronique d'une journée morte, qui est en fait un monologue. On va le travailler avec 4 voix, avec 4 comédiennes. Mais c'est un rapport évidemment avec le sujet de la pièce aussi, qui est soit la perte de mémoire, la folie. On ne sait pas trop où on en est avec cette jeune femme. Le fait de travailler avec 4 voix et de travailler avec la polyphonie, les différents espaces dans le lieu de lecture, enfin voilà quoi.
Et Philippe, toi, en lisant toutes ces pièces, parce que tu es un des organisateurs, qu'est-ce que tu penses de ce théâtre? Parce que toi, tu connais le théâtre belge, le théâtre européen, tu circules un peu partout avec ton recul.
Il y a une des choses qui me semble intéressante, comme l'a dit Emmanuel, c'est la façon de passer à côté. C'est-à-dire qu'il y a quand même malgré tout une censure. Il y a une censure aussi qui est de l'autocensure, parce que les artistes s'autocensurent entre eux aussi. Il y a une censure financière, et heureusement en Belgique on commence à le comprendre. C'est important de nous censurer financièrement, ça va nous rendre plus malins.
Il y a des références iraniennes qu'on va pas capter.
Il y a forcément des références iraniennes. Après, les autres, ils sont plus proches de nous qu'on ne le pense, et on est plus proche d'eux. Donc les références, on les ressent malgré tout. Alors après, on a quand même malgré tout une image de ce que ça peut être, hein, à travers les films qu'on peut voir, les cinémas iraniens, etc., etc. On a quand même en fait plus de... On voit de quoi il s'agit. Donc les références, on les ressent. On les comprend pas peut-être aussi profondément que tout le temps, mais on les ressent, on les reçoit quand même.
Et alors, je veux juste dire qu'il y a plusieurs, vous êtes à combien là-dedans? Donc tu as rassemblé, par exemple, il y a l'école de Mons, il y a Frédéric Dussène qui fera de la lecture, oui. Il y a Céline Delbecq, il y a Anna Rodriguez, vous êtes à combien là-dedans?
En fait, il y a 8 metteurs en scène, on peut citer quelques-uns en vrac, Céline Delbecq, Olivier Boudon, Timothy Findes du groupe Aboul Kassem du Poche, Frédéric Dussène, tu l'as dit. Voilà, et une série de partenaires, c'est important de le dire, parce que ça montre qu'il y a aussi un vrai intérêt en Belgique d'une série de structures, le théâtre de l'Ancre, Arsenic, le groupe Off, la charge du rhinocéros.
Oui, mais c'est très difficile de dire non, on n'est pas contre le théâtre iranien, donc c'est...
Plus que ça, notre but avoué était d'être un relais de ces auteurs auprès du grand public, mais aussi auprès des professionnels, pour que ça donne envie, on l'espère, après, de créer des spectacles et d'aller plus loin sur ce répertoire. Donc c'est important qu'il y ait ses partenaires.
Et pourquoi? Est-ce que des auteurs iraniens seront présents? Et est-ce qu'il y a eu la question de le faire en farsi ou en persan?
Alors, certaines pièces ont déjà été montées en Iran en persan. Ici, nous, on est une toute jeune compagnie, c'était difficile pour nous de faire venir tous les auteurs. Et puis, il y a des difficultés qui sont aussi liées au visa, etc. On espère quand même que ceci n'est qu'un début et qu'on aura l'occasion de les faire venir pour d'autres événements autour de l'Iran.
J'en profite pour rappeler qu'en juin, il y a Ivanov de Tchekhov monté en persan par Korestani à Beaux-Arts. Korestani qui était venu au Kunsten Festival. Est-ce qu'on peut nous faire une petite lecture d'un de vos textes, Philippe et Emmanuel?
Non.
Merci. Alors, ça s'appelle comment? C'est justement Untitled, le nom du festival.
C'est la lecture qui va lancer le festival, qui va être lue en fait par tous les metteurs en scène, par les 8 metteurs en scène qui vont donc œuvrer durant ces lectures. Voilà.
Et alors, ça s'appelle Je suis une créature Twitter, c'est ça?
Tout à fait.
Et alors, que raconte la pièce, Emmanuel?
Alors, ça raconte en fait les 10 derniers pas de Neda. Neda, on s'en souvient, en 2009, durant les manifestations contre la réélection contestée d'Ahmadinejad. C'est une jeune fille qui a été tuée d'une balle policière. Et l'auteur, comme un compte à rebours, en 10 paragraphes, raconte les 10 derniers pas qui vont mener Neda à cette balle. Et en fait, elle a été filmée et ces images vont faire le tour de la toile, Twitter, Facebook. Elle va devenir un symbole de la contestation.
Filmée avec un téléphone portable.
À filmer avec un téléphone portable.
Et c'est donc la lecture qui ouvre le festival. Petite parenthèse, il n'y a pas d'auteur femme?
On citera Narmeh Samini. La seule et l'unique, mais elle est bien présente. Et sur une pièce qui s'appelle « Les chevaux du ciel tombent en pluie de poussière », inspirée du Livre des Rois, texte traditionnel iranien.
Alors je vous laisse les micros, Emmanuel et Philippe, pour un extrait de « Je suis une créature Twitter, Untitled ». Donc c'est les deux pas de cette...
Les deux derniers pas.
À vous.
Le 9e pas. Il ne me reste plus qu'un pas à faire et me voilà à présent tout proche de là-bas. Je peux même sentir une chaleur immense se dégager de ce point. Je peux entendre les failles de la terre qui tremblent et grondent dans ce point précis. Je peux voir une fille qui est debout, là, à garde, et qui regarde autour d'elle sans comprendre ce qui lui arrive. Elle ne peut pas comprendre pourquoi elle reste là, à ce point précis, à cet instant précis. Elle ne sait pas pourquoi ce parcours, ces 10 pas doivent commencer par la plus vieille voix de sa vie et forcément, écoutez-moi bien, forcément se terminer là, à ce point précis, à cet instant précis. Elle ne peut pas comprendre la logique de tous ces événements, leur connexion. La seule chose qu'elle comprend, c'est qu'elle est là, qu'elle est seule et qu'elle a peur. Et c'est la seule vérité qu'elle peut comprendre à ce moment précis. Et moi, je la connais, cette fille. Je sais qu'elle est à garde, je sais qu'elle a peur. Je sais qu'elle est seule. Elle est là, debout, dans cet endroit, où elle attend depuis des années. Elle m'attend depuis des années. Je dois faire ce dernier pas. Je dois aller la rejoindre là-bas, lui prendre la main et lui dire « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Alors elle se retourne, elle me regarde et me dit en tremblant « N'aie pas peur, je suis avec toi ».
Et voilà le dernier pas, le dixième pas, le point précis. Je suis maintenant debout, ici, tout est silence, un silence absolu. Toute la terre retient son souffle et me contemple moi qui peux désormais entendre les tremblements secrets de la terre, les tectoniques qui se meuvent, le sifflement du vent qui te mordit la peau, la voix morte de tous les morts. Le hennissement d'un cheval au loin et le croassement des corbeaux et le cri des oiseaux dont l'espèce a disparu et la plainte silencieuse des baleines qui se jettent sur la plage. Et la respiration sourde de tous les humains et le bruit sourd de l'incendie. Le sifflement strident d'un morceau de plomb qui se dirige à toute vitesse en ma direction. Je dis à mon père « Papa, j'ai mal. Je me suis fait une égratignure à la main. » Ce n'est pas grave, ma petite fille. La douleur, cela fait partie de la vie. Et ce n'est rien, la douleur, d'une égratignure. Il y a bien pire. Et voilà que ce morceau de plomb, avec son sifflement sourd, se dirige inexorablement en ma direction pour m'apprendre la signification ultime de la douleur. Je n'ai rien d'autre à dire. La suite, c'est ce garçon qui n'est plus qu'un numéro, D78-671, qui m'a filmé. Et qui me fera rejoindre d'un seul clic le monde virtuel, votre monde virtuel. Quant à moi, à cet instant précis, où le sang commence à couler par tous mes orifices, j'entends cette dernière voix, la plus ancienne voix de ma vie. Papa, où est la rue? Papa, c'est encore loin la rue? Papa, moi j'aime beaucoup la rue. Papa, au lieu de la maison, on ne pourrait pas aller vivre dans la rue, papa.
Voilà, merci à vous pour c'est cette... Donc on rappelle peut-être un petit peu ce qu'on vient d'entendre aussi.
C'était Untitled, je suis une créature Twitter, donc mise en lecture par qui?
Stéphanie Manger et l'ensemble de la compagnie sur le coup.
Donc c'est pour le festival Untitled à Tour et Taxi, ça démarre le 16 jusqu'au 19, 8 pièces iraniennes contemporaines, une flopée de comédiens et de metteurs en scène qui sont très impressionnants, c'est un beau bouquet, hein, un beau bouquet dans l'histoire. Alors c'est en parallèle à une expo d'art contemporain par des femmes iraniennes. Philippe nous dit que c'est une très belle expo.
C'est vraiment très très intéressant de voir le regard des femmes sur leur propre... elles reprennent en fait leur corps de femme et leur vision de femme et la voix, quoi.
On fera la lecture au milieu des œuvres.
Voilà. Alors c'est un inédit, hein. C'est le genre d'aventure très rare, donc profitez-en, c'est la semaine prochaine du 16 au 19. Ainsi se termine la conspiration des plans.
Un site internet peut-être pour cet événement?
Allez, vas-y Emmanuel.
Lecture au pluriel, lecturemaps.wordpress.com.
Merci, ainsi se termine la conspiration des planches. Podcast de cette émission sur demandezleprogramme.be dans le centre de ressources de la Bellonne. Très belle semaine à vous et à la semaine prochaine pour une spéciale fête.
Yes.
Conspiración.